France Culture, il est 8h et le journal est présenté par Maxime Fayolle. Bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. À quelques jours du début du G7 en France, Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Brégançon aujourd'hui. Une rencontre entre deux présidents dont les relations n'ont jamais véritablement été au beau fixe.
Ce lundi marque la rentrée politique en France. On s'intéressera ce matin au sort des suppléants à l'Assemblée nationale. Que deviennent-ils quand un ministre revient sur les bancs du Palais Bourbon? Suivez mon regard, une association demande une clarification de leur statut.
En plein été, nous irons comparer l'état des plages françaises et constater une pollution grandissante au plastique. Et si une charte sans plastique a été lancé par le gouvernement. Les résultats sont encore loin d'être visibles.
Enfin, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes demandée par les joueuses de football américaines. Les quadruples vainqueurs de la Coupe du Monde féminine sont prêtes à aller en justice pour obtenir réparation financière.
Privé de la photo de famille pour le G7 à Biarritz à cause de l'annexion de la Crimée il y a 5 ans, Vladimir Poutine se rendra à Brégançon aujourd'hui pour un tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se rencontrent en fin d'après-midi dans la résidence d'été du président français avant un dîner de travail. L'occasion pour Emmanuel Macron de préparer ce sommet des 7 et pour Vladimir Poutine d'y jouer un rôle malgré tout. Le dialogue est maintenu, Bertrand Galichet, entre deux dirigeants qui n'entretiennent pourtant pas les meilleures relations.
La relation asymétrique saute aux yeux depuis que les deux dirigeants ont fait connaissance au printemps 2017 au château de Versailles. En recevant le maître du Kremlin avec faste, Emmanuel Macron avait joué le rapport de force autant que la relation personnelle. Aujourd'hui à Brégançon, le décor de la rencontre, pour l'essentiel en tête-à-tête, semble plus convivial. L'Élysée affirme qu'il ne faut pas surinterpréter le cadre, choisi simplement parce qu'Emmanuel Macron y réside en ce moment. En réalité, le président français n'a jamais pu établir avec son homologue russe une vraie proximité. En mai 2018, à Saint-Pétersbourg, les tentatives d'Emmanuel Macron pour dégeler un Vladimir Poutine imperturbable n'avaient pas abouti. Cette année, au G20 à Osaka, des désaccords de fond avaient surgi, le dirigeant français récusant les propos de Poutine sur le caractère obsolète des idées progressistes occidentales. Trop différents sur le fond et dans le style, les deux hommes peinent à établir une relation chaleureuse, ce qui n'empêche pas Emmanuel Macron de vouloir s'imposer comme l'interlocuteur principal de Vladimir Poutine en Europe.
Les précisions de Bertrand Galichet. Ce lundi marque en tout cas le retour de la politique, au moins sur la scène française. Le gouvernement tiendra son premier conseil des ministres mercredi et les partis politiques, eux, préparent leurs universités d'été. La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste seront réunis chacun de leur côté en cette fin de semaine et avec un sujet de discussion principal, estime le chercheur Bruno Cotres.
Il est très clair que pour toutes les formations politiques, cette rentrée 2019, elle a en perspective les élections municipales de 2020. Il va s'agir sans aucun doute pour toutes les formations politiques de montrer qu'elles ont à cœur la dimension locale. Nous avons vu au cours de cet été que les élus locaux faisaient l'objet à la fois de toutes les attentions, mais aussi parfois d'un certain nombre d'attaques, un certain nombre de phénomènes qui se sont déroulés pendant l'été. Donc toutes les formations politiques vont montrer qu'elles ont aussi des élus locaux à mettre en avant, des candidats aux élections municipales. Je pense en particulier à cet enjeu pour La République En Marche qui va tenir sa première université d'été à Bordeaux au début du mois de septembre. Et pour La République En Marche, il va sans aucun doute s'agir de montrer que dans la perspective des élections municipales, ce mouvement politique a une capacité à faire venir à lui des futurs nouveaux dans la vie politique locale, mais on aura les mêmes enjeux à droite, à gauche, où la question de la refondation de la gauche, la question des alliances, la question des nouvelles synergies entre les formations politiques de gauche va également s'imposer très fortement, je pense, au programme de ces universités d'été dans la perspective des élections municipales.
Bruno Cotres, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, interrogé par Ilan Malka. Des élections municipales qui obnubilent déjà tous les partis politiques et qui agite jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale où certains envisagent parfois un avenir à la tête d'un exécutif local. En cas de départ d'un député, c'est son suppléant qui prend sa place jusqu'à un éventuel retour. C'est aussi le cas pour les députés qui deviennent ministres. Et lorsqu'ils reviennent sur les bancs du Palais Bourbon, que deviennent ces députés suppléants? Quelques-uns d'entre eux ont créé une association à l'Assemblée. C'est une première sous la Ve République. Ils demandent plus de garanties, Anne Fauquemberg, ainsi qu'un statut plus clair.
Le code électoral est flou, les suppléants sont élus avec le député, mais leurs droits et leurs devoirs ne sont pas définis, ce qui donne des situations absurdes. Des préfectures, par exemple, réticentes à ce qu'un suppléant remplace un titulaire lors de cérémonies officielles. C'est pourquoi Thierry Cessin-Caracci, le président de l'Association progressiste des suppléants, demande une modification par décret de l'ordre protocolaire.
Quand on décline les personnes qui sont habilitées à faire partie du protocole, on commence par le maire, etc. Puis on arrive au député. Il faudrait simplement préciser le député ou, en son absence, son suppléant.
Thierry Cessin-Caracci demande aussi un droit à la formation. Son association estime en effet que 15 à 20% des suppléants seront amenés à devenir députés sur la mandature à cause notamment des municipales de l'an prochain.
Et ça veut dire, un petit peu sur le modèle des réservistes de l'armée, qu'il y ait des journées de formation qui soient organisées quelquefois dans l'année, hein, pour que les suppléants puissent se former de manière permanente, sans qu'il y ait de temps perdu dans la prise de fonction.
Pour Élise Fagelès, la suppléante de Benjamin Griveaux, qui a dû quitter l'Assemblée en avril dernier avec le retour du secrétaire d'État dans l'hémicycle, ses réflexions sont intéressantes. Dans le contexte de défiance envers les politiques, elle pense aussi que le suppléant pourrait avoir un nouveau rôle de proximité.
Il faut toujours avoir ce travail de démocratie participative, etc. Donc il faut arriver à, je pense, que le député soit plus impliqué sur le terrain, certainement, mais pourquoi pas avoir une courroie de transmission. Moi, pendant le grand débat, je l'ai beaucoup entendu, ce mot de courroie de transmission.
Pendant la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs, les suppléants avaient remonté beaucoup d'informations au siège du parti La République En Marche.
Le reportage d'Anne Fauquemberg. C'est aujourd'hui que redémarre le chantier de Notre-Dame de Paris. Cela fait plus de 3 semaines qu'il est à l'arrêt après les mesures de pollution au plomb supérieures au taux réglementaire. L'inspection du travail a donné son aval pour la reprise sous condition, notamment l'installation d'un sas de décontamination.
Il est 8h06, vous écoutez France Culture, c'est le journal de Maxime Fayolle. Les plages françaises toujours de plus en plus contaminées par les déchets plastiques.
Et c'est pourquoi la secrétaire d'État Brune Poirson dévoile une charte pour lutter contre ces déchets. La Méditerranée est notamment la mer la plus touchée par ce phénomène. Pour l'instant, près d'une quinzaine de communes se sont portées volontaires pour mettre en place ces engagements et parvenir à zéro déchet plastique en 2025. L'objectif est louable, Lisa Guyenne, mais les efforts à faire sont considérables, vous l'avez constaté en comparant 2 plages de la côte d'Opale dans le nord de la France.
C'est une vaste étendue de sable fin, quasiment vierge de tout déchet. À Boulogne-sur-Mer, on a pris des mesures pour que le plastique disparaisse peu à peu de la plage. Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne.
Oui, explication, signalétique, poubelle, ramassage, sensibilisation, distribution de cendriers gratuits. Par ailleurs, nous travaillons pour prohiber et avoir des produits alternatifs aux gobelets plastiques, aux fourchettes plastiques, aux couteaux plastiques, bref, d'anticiper ce qui sera finalement à terme une interdiction.
La ville fait partie des premières signataires de la charte zéro plastique, une petite victoire pour le maire.
Lorsque nous prenons des initiatives du style la plage sans mégots, la charte anti-plastique, il y a quelques années, il y avait une forme d'interrogation, en se disant, bah oui, mais quelle est l'utilité, qu'est-ce que ça aura comme effet, etc. Mais chacun, aujourd'hui, prend conscience qu'il faut ces petits gestes.
Frédéric Cuvillier veut faire de cette plage une vitrine pour la conservation du littoral. Mais autour de Boulogne, d'autres lieux ne bénéficient pas de la même attention. À 6 km au nord, la plage de la Pointe aux Oies offre un tout autre spectacle.
On est sur une des plages les plus impactées sur le littoral de la Côte d'Opale.
Thomas Amberger est membre de l'association Nature Libre. Il vient régulièrement nettoyer les plages. Ici, le plastique est partout, entre le matériel de pêche, les pots de yaourt, les bouteilles de soda et toutes sortes de morceaux non identifiés.
Comme on a un courant transversal qui remonte le long du littoral, de la Seine jusque chez nous, en fait, beaucoup de déchets qui sortent de l'estuaire de la Seine, nous on les récupère ici en fait. Donc tout ce qui vient du bassin parisien, ben voilà, nous on est un petit peu le dernier réceptacle en fait de cette pollution.
Comme le maire de Boulogne, Thomas Amberger, a bien vu ces dernières années un changement de mentalité. Pour autant, on est encore très loin du compte.
C'est bien, hein. Je ne nie pas l'avancée, mais encore une fois, par rapport à l'ampleur des dégâts, c'est une goutte d'eau, quoi. C'est une goutte d'eau, il faudrait aller beaucoup plus loin.
Aller plus loin, mais comment ? La question sera au cœur du projet de loi sur l'économie circulaire, examiné dans un mois au Sénat.
Le reportage de Lisa Guyenne, dossier complet à retrouver sur franceculture.fr. L'Italie annonce avoir retrouvé le corps de Simon Gauthier. Hier soir, le jeune Français de 27 ans était parti en randonnée dans le sud de Naples. Il avait chuté dans un ravin, il n'avait pas pu être localisé à temps par les secouristes. En Espagne, la grande île des Canaries, elle, est toujours la proie des flammes depuis samedi. Plus de 5000 personnes ont dû être évacuées. 3400 hectares de forêt ont été détruits. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. 600 pompiers sont sur place. L'Espagne qui a proposé une porte de sortie au navire humanitaire de l'ONG Open Arms, toujours bloqué aux portes de Lampedusa en Italie. Le gouvernement espagnol annonçait hier que le port d'Algeciras était ouvert aux navires et ses 107 personnes à bord s'ils le souhaitaient. L'ONG a finalement refusé la proposition, Pierre Chaperon.
Trop loin, trop long, la solution proposée par Pedro Sanchez d'accoster à Algeciras a été rapidement refusée par l'Open Arms. Plus de 1700 km séparent les côtes de Lampedusa où se trouve le bateau au port espagnol. Soit 5 jours de navigation en plus. Solution irréalisable selon le fondateur de l'ONG propriétaire de l'embarcation, Oscar Camps, alors que la situation à bord est selon lui insoutenable. Oscar Camps qui en appelle aux gouvernements européens sur Twitter pour trouver une solution et qui fustige la position du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. De quoi avez-vous besoin de plus pour votre campagne politique? Des morts, demande-t-il. Bref, aucune solution pour le moment pour l'Open Arms et ses 107 passagers coincés à quelques centaines de mètres des côtes italiennes.
Précision de Pierre Chaperon pour France Culture. En Turquie, ce sont 330 migrants qui ont été arrêtés par les gardes-côtes, principalement des Syriens, des Afghans et des Palestiniens qui cherchaient à arriver sur l'île grecque de Lesbos. Une intervention dans le cadre de l'accord entre le pays et l'Union sur les migrants qui souhaitent rejoindre l'Europe en passant par la Turquie.
Hong Kong a connu hier sa plus grande manifestation depuis plusieurs semaines.
1,7 million de personnes selon l'organisation Front Civil des Droits de l'Homme, 128 000 seulement selon la police. Le mouvement de manifestation continue donc dans la région qui demande toujours plus de liberté et de démocratie à Pékin. Un rassemblement pacifique. Valérie Crova.
Ils ont défilé dans le calme jusqu'en début de soirée. Les Hongkongais qui soutiennent le mouvement pour la démocratie ont bravé la pluie mais aussi l'interdiction qui leur avait été faite de sortir du parc Victoria. L'image qu'ont voulu donner les organisateurs du rassemblement était à l'opposé des scènes d'émeutes filmées la semaine dernière à l'aéroport de Hong Kong et largement récupérées par la propagande chinoise. Les plus radicaux ont été priés de ne pas s'en prendre aux forces de l'ordre qui sont restées discrètes tout au long du parcours. Elles se sont déployées uniquement autour de certains bâtiments, comme le bureau de liaison de Pékin ou des commissariats. À des manifestants qui huaient des policiers, un homme donne comme conseil de ne pas tomber dans le piège. « Le monde entier nous regarde », ajoute-t-il. Les deux camps qui s'opposent avaient, semble-t-il, déclaré une trêve hier. Qu'en sera-t-il lors de la prochaine manifestation? La date de samedi prochain circule déjà.
Un récit de notre envoyé spécial à Hong Kong, Valérie Crova, avec les moyens techniques de Jérémy Tuile. Le président américain Donald Trump s'est d'ailleurs exprimé sur le sort de Hong Kong cette nuit. Il affirme que si des violences de Pékin surviennent, cela nuirait à un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump qui confirme sa volonté d'ailleurs de se porter acquéreur du Groenland. Le président américain estime qu'il s'agirait d'une grosse transaction immobilière, même s'il affirme qu'il ne s'agit pas d'une priorité pour les États-Unis. Donald Trump qui va devoir s'opposer au refus des autorités danoises. Le Groenland n'est pas à vendre, rappelle la première ministre Mette Frederiksen. Toujours aux États-Unis, c'est un autre combat que mènent les footballeuses de l'équipe féminine. Elles exigent toujours l'égalité salariale avec leurs homologues masculins. Un recours collectif a été déposé et une nouvelle audience est prévue aujourd'hui, Grégory Phillips.
Elles ont gagné 4 Coupes du Monde et 4 titres olympiques, mais elles continuent à être moins bien payées que leurs collègues masculins. À titre d'exemple, en 2014, la Fédération américaine avait offert aux hommes un peu plus de 5 millions de dollars pour avoir atteint les huitièmes de finale du Mondial au Brésil. Un an plus tard, la même fédération ne versait qu'1,7 million aux femmes qui pourtant venaient de remporter leur 3e Coupe du Monde au Canada. On veut l'égalité salariale, commente l'attaquante Kristen Press, invitée la semaine passée de la matinale de ABC. Quand on gagne, on veut les mêmes compensations que les hommes. Et notre combat concerne toutes les femmes dans le monde professionnel. Donc nous irons jusqu'au procès, s'il le faut, et avec confiance. Mercredi dernier, à New York, les négociations entre la fédération américaine et les représentants des joueuses ont échoué. Et toujours sur ABC, la star Megan Rapinoe se montre ferme. On n'acceptera rien de moins que cette égalité salariale. La présentatrice demande alors aux deux championnes du monde ce qu'elles feront si leur action de groupe échoue. Iront-elles jusqu'au procès Vous nous demandez ce qui se passera si on perd, mais la défaite, on ne sait même pas ce que c'est, répond-elle amusée.
Les explications de Grégory Philips. On l'a appris cette nuit, la mort de Michel de Decker, le chroniqueur et écrivain passionné d'histoire, est décédé à l'âge de 71 ans. Il a notamment contribué à l'émission Secret d'Histoire de Stéphane Bern. Il a aussi passé 28 ans chez nos confrères de France Bleu Normandie. Le temps de ce lundi, il est nuageux et pluvieux sur l'est du pays. Dégradation orageuse qui va de la vallée du Rhône jusqu'au sud de l'Alsace. Sur le reste du pays, le soleil est voilé. Les températures sont en baisse. Elles vont de 10 à 14 degrés ce matin. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux et il est 8h15 sur France Culture. C'est la suite des matins d'été, Benoît Bouscarel.
Exactement, merci beaucoup Maxime Fayolle et à tout à l'heure, 9h.